et à tous. Didier pour un nouveau rendez-vous compte sur IDFM, un rendez-vous compte au cours duquel on va parcourir les plus hauts sommets terrestres et philosophiques, pratiquer quelques postures de yoga avec notre invité. Bonjour Yann.
Bonjour Didier.
Yann Jawel.
C'est ça.
Yannou pour les intimes.
Exactement.
Alors, petite dédicace à Fabienne, qui te connaît bien, Yann, mais qui n'a pas pu être aujourd'hui présente dans les studios. Bonjour Fabienne. Alors, Yann, tu as été notre premier invité de la saison dernière, le 4 septembre 2025. D'ailleurs, on peut réécouter notre entretien sur la page de nos podcasts. Alors, Yann, tu habites Montlignon ?
Oui.
Enfin, quand tu y retournes après quelques longs périples, hein, ça va être justement le cas depuis le début du mois de juillet.
C'est ça, je suis revenu le 8 juillet.
Voilà. Alors, mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps, Yann, entre juillet 2025 et juillet 2026 ?
Eh bien, je suis parti de chez moi, j'ai pris un train en direction de Marseille et à partir de là, j'ai traversé une partie de la France, l'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Arménie et je me suis envolé depuis l'Arménie jusqu'en Inde.
Voilà, donc c'était le but vraiment de ce voyage. On va y consacrer la plus grande partie de l'émission. Mais alors, avant de revenir plus longuement sur cette expérience, sur ton compte Instagram, est-ce que tu te présentes toujours tout à la fois comme écrivain, aventurier, voyageur, musicien, professeur de yoga et éducateur sportif ?
Bah oui.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé, c'est toujours moi.
oui.
C'est tout ce qui fait l'univers du voyageur au colibri.
Voilà. Apiculteur encore ou moins ?
Oui, oui. Bah là, dimanche, je vais avec mon père, on va essayer de voir si on peut faire une petite récolte avec nos ruches.
D'accord. Bah, il faudra venir nous faire goûter ça quand même,
Yann.
Avec
hein. Plaisir.
Ça serait
plaisir.
Pas mal. Ce sera un événement IDFM. Donc, on va surtout parler voyage aujourd'hui. Par quel pays cette passion du voyage a-t-elle commencé il y a déjà quand même quelques temps ?
Bah oui. Alors, si je reviens à la racine de tout, je crois, j'avais 15-16 ans et j'ai eu l'opportunité de partir. Alors d'abord avec le lycée, Jacques Prévert de Taverny. Je faisais du théâtre là-bas, j'étais en option théâtre quand je faisais littéraire. Et je suis parti en République tchèque avec ma classe et j'avais adoré, moi, voir différents... une différente culture, architecture, visage, langue, goût.
Et Prague, c'est une belle ville quand même.
Et Prague, c'est une très belle ville. Mmh. Et moi, j'avais adoré ça. Et je me suis dit, mais attendez, mais il y a plus de 195 pays dans le monde. tout est différent. On vit sur une planète extrêmement riche en diversité. Et ça m'a marqué. Mmh.
Mais un peu plus tard, vers l'âge de 20 ans, donc ça y est, c'est parti.
Eh bien oui, il y a eu un autre voyage avec mon grand-père. J'ai eu la chance de partir avec mon grand-père quand j'avais 16-17 ans, pareil, en Colombie, parce que j'avais un cousin qui était prof de français là-bas. Et ce voyage m'a beaucoup marqué. Je voulais citer mon grand-père, c'est important pour moi. Mais surtout, ces deux voyages-là, quand j'étais adolescent, ils m'ont permis de vouloir apprendre des langues, apprendre l'anglais, parce que je parlais que français. Et donc, à 20 ans, après avoir arrêté mes études et travaillé pendant un an comme surveillant dans un collège, et je m'occupais d'enfants en difficulté scolaire, j'ai pu partir en Australie. Et ça, c'est mon premier voyage quand j'avais 20 ans.
Voilà, c'était le premier, mais pas le dernier.
Ah bah non, c'est fou ce qui s'est passé depuis.
Alors, je citerai par exemple Thaïlande, Vietnam, Chine, Mongolie, Russie.
Bah voilà, donc je suis revenu, mon premier voyage, je pensais moi partir un an en Australie et revenir en France pour étudier reprendre une vie plus classique. Et finalement, ma mère, elle m'a envoyé un livre d'un homme qui s'appelle André Brougiroux, l'homme qui voulait voir tous les pays du monde. J'ai dévoré ce bouquin pendant que j'étais en Australie. Et après un problème de passeport, etc., que j'ai eu, je me suis retrouvé en Thaïlande et je suis revenu en grande partie en stop en traversant Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Chine, Mongolie, Russie et l'Europe, jusqu'à
voilà.
Chez moi.
Ça a l'air tout simple.
Bah ouais, à 20 ans.
Alors tu parlais de ta mère qui est ici dans notre studio, on lui donnera bonjour. Bonjour,
bonjour
Rosita.
Bonjour.
On vous donnera
bonjour,
la parole dans quelques minutes.
Pas de problème.
Alors et puis un premier livre, Le voyageur au colibri. Alors pourquoi ce titre ?
Eh bien donc plus tard dans mes voyages, j'ai passé quand même 3 ans et demi en Amérique du Sud l'Amérique du Sud m'a beaucoup marqué. Et j'ai notamment une histoire avec en Patagonie chilienne avec un colibri et un peu une fée dans des cabanes en haut des arbres. Et cette histoire m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et c'est comme ça que je suis devenu le voyageur au colibri. Et donc, c'est devenu la marque de tout ce que je fais, quoi. Parce que, par exemple, même mes cours de yoga, maintenant, ils s'appellent Yan Yoga, et mon symbole, le Y, je le fais avec un colibri avec les ailes déployées. Bref, c'est le voyageur au colibri, c'est devenu ma marque de fabrique.
Bien, alors, tu parlais de ton grand-père il y a quelques instants, mais justement, dans Le Voyageur au colibri, il y a une dédicace à ton grand-père, alors qui fait référence à un autre oiseau enchanteur.
Ah, parce que mon grand-père, pour moi, c'est un grand poète et chanteur. C'était mon meilleur ami. Et le rossignol le représente bien parce qu'il était toujours en train de chanter.
Alors, tu racontes dans ce livre, hein, Le Voyageur au colibri, la traversée de l'Argentine en vélo, donc c'est déjà pas mal.
Oui.
Avec notamment des rencontres inoubliables, tu nous rappelles ?
Et ben, par exemple, il y a eu mon ami de toujours que j'avais rencontré à Cuba quand j'ai commencé à voyager en Amérique latine, Edo. Edo qui voyageait à vélo, c'est un Chilien médecin qui vivait à l'époque à Buenos Aires. Il a toujours été là au début de grandes aventures que j'ai faites. Puis c'est devenu un frère, Edo. Il y a aussi les deux cyclo-voyageuses Vanessa et Nancy. Elles sont incroyables parce que c'est deux femmes d'Argentine qui ont traversé toute l'Amérique du Sud à vélo, hyper débrouillardes, et elles m'ont aidé à me lancer sur les routes. Voilà, parmi d'autres, j'ai été dans un village hyper évangélique où là je me suis retrouvé dans ce village avec ces gens qui avaient une idée complètement différente du monde et qui m'ont reçu, hein. Mais c'est vrai que ça n'a pas été très très évident tout le temps. Il y a eu quand j'étais à Venado Tuerto où j'ai revu Vicky, une amie qui est une amie d'une amie que j'avais rencontrée en Bolivie, qui m'a aidé. Et là pareil, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à progresser, à améliorer mon vélo. Bref, ce qui est intéressant dans ce voyage à vélo en Argentine, c'est que je suis parti en étant avec des crocs et en étant avec un short et puis un simple vélo que j'ai acheté dans la banlieue de Buenos Aires avec Edo qui m'a aidé à le trouver sur Facebook. Enfin bon, bref.
Quand même Facebook, quand même.
Ouais,
hein.
ouais.
Finalement. Un maître yogi aussi ?
Et en Uruguay, du coup, j'ai rencontré mon professeur de yoga, Crudo. Et je crois que sans lui, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de gratitude envers cette rencontre. Parce que sans lui, sûrement que je n'aurais jamais fait ce voyage en Inde, peut-être que je l'ai fait.
Puis en Uruguay aussi, un personnage important, incroyable.
Ah pour moi, ça, c'était l'un des rêves de ce voyage en Amérique du Sud, pardon, c'est d'avoir rencontré Pepe Mujica, l'ancien président de l'Uruguay. On l'appelle le président le plus humble du monde. Parce qu'il reversait 90% de son salaire à des associations et il est resté dans sa ferme durant son mandat d'élu.
Voilà, on pourrait lui envoyer quelques-uns des présidents du monde.
Ouais, là oui.
Voilà, alors on peut retrouver plusieurs articles sur tes aventures dans le journal de François, notre ami évidemment François Jeannin.
Que je salue.
Voilà, et qu'on trouve en tapant tout simplement « Journal de François » hein, sur Google. Alors, comme moi d'ailleurs, vous pouvez vous abonner pour recevoir chaque semaine les deux newsletters, les infos de proximité et l'agenda du week-end. Et en plus, François, le Journal de François, chaque mois publie également un des podcasts de notre émission, les podcasts de Didier. Voilà, et en particulier justement celui de notre rendez-vous compte avec toi, Yann. Le voyageur au colibri, toujours aussi enthousiaste, c'est un article qu'il a publié le 20 octobre 2025. Alors Yann, première pause musicale que tu as choisie, on va être dans l'ambiance, une chanson du Ladakh, c'est-à-dire une partie de l'Himalaya.
Oui.
Pas facile d'accès peut-être ?
Non, alors Ladakh, en fait, là ça veut dire passe et Dakh c'est pays. Donc c'est le pays des passes. Donc pour pouvoir accéder au Ladakh, on est forcément obligé, par les terres, de passer par des passes qui sont forcément à plus de 4000 d'altitude.
Ouais, très montagneux.
Très montagneux.
Ouais. Alors une chanson donc, du Ladakh que tu as entendue, enfin, explique-nous un peu comment
t'as... En fait, j'ai pas énormément d'informations sur ces chansons, mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai fait du stop au Ladakh et c'était une aventure incroyable. Et quand on me prenait en stop, les gens mettaient la radio, il y avait des musiques qui passait. Et donc, cette chanson, je l'ai enregistrée sur Shazam pour avoir un souvenir des chansons qu'on peut écouter dans cette zone du monde.
Voilà, Shazam et Facebook, Memo Ladakh.
Ouais, Memo Ladakh.
Rendez-vous compte. Alors, on écoute cette chanson. Hein. C'est une chanson donc, du Ladakh de Tenzi Banka.
Ok. Yar khas bantam min toki Doktam tijim skit pala Namaste, namaste.
IDFM, 98 FM.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM avec ce rendez-vous compte où nous recevons Yann Jaouen, qui continue à nous parler de son fabuleux voyage. Donc le but, c'était l'Inde, ouais. Le but final. Mais disons que ça aurait été trop facile de prendre l'avion directement jusqu'à New Delhi. Tu nous as expliqué par où tu... D'abord, Marseille, ouais. Et puis après. Alors on va écouter une short vidéo dans laquelle tu détailles le début de ton cheminement vers ta destination.
Salut les fololos, j'ai commencé ce voyage sur un voilier en France. Puis j'ai traversé l'Italie du Nord, grimpé dans les Dolomites vertigineuses, découvert Vérone la Belle et la légendaire Venise. Un bateau m'a emmené jusqu'en Grèce, où j'ai exploré le Péloponnèse, Athènes et les météores suspendus. Enfin, la Turquie m'a accueilli. Istanbul vibrante, Pamukkale et ses cascades, et la Cappadoce aux cheminées de feu. Plus de 7300 km parcourus, des rencontres humaines indescriptibles. Il ne me reste plus que l'Arménie avant de m'envoler pour ma destination finale, l'Inde. Aventura !
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Alors Yann, dis-nous, pourquoi ce choix de l'Inde? En fait, c'est pour refaire le même parcours, le même cheminement spirituel que la génération post-68. Les hippies, dont certains se sont d'ailleurs perdus sur les routes de Katmandou, de Bénarès. Tu voulais refaire un peu le même parcours?
Mon activité professionnelle, c'est professeur de yoga. Et c'est vrai que j'ai découvert le yoga en Uruguay, mais je ne suis jamais allé en Inde. Et je dois admettre que j'ai eu une année 2024 un peu compliquée, mais bon, comme tout le monde dans la vie, c'était une année un peu compliquée. Et finalement, je me souviens, en décembre 2024, j'ai une grande carte du monde dans ma chambre, je regarde cette carte du monde et je la regarde un peu en pleurant parce que j'allais pas très très bien. Et je me dis, Yannou, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas qui tu es. Et là, d'un coup, c'est venu du cœur, c'est remonté jusqu'à mon cerveau. Et là, mes yeux se sont tournés vers l'Inde. Et là, d'un coup, j'ai dit, mais Yannou, t'as 30 ans, t'es tout seul, t'as mis un peu de sous de côté, mais pars en Inde, c'est le moment. Et là, d'un coup, mon cœur qui était serré pendant au moins un an, là, j'ai senti une libération. Je me souviens, assez rapidement, j'ai appelé Rosita, ma mère, et je lui ai expliqué mon plan, et elle m'a dit, Vas-y.
Il n'y a rien de plus simple dans la vie.
Mais oui.
C'est ça. Rosita, donc ça s'est passé comme ça.
Il m'a appelé, c'était le soir, et il me dit ça. Mais je lui dis, mais pourquoi pas, mon gars? Vas-y, il faut, dans la vie, il ne faut rien s'interdire. Il faut y aller et il ne faut jamais rien regretter.
Eh ben.
Vas-y.
Je ne sais pas si toutes les mamans auraient eu le même discours, mais enfin, en tout cas, c'est parti. Alors, Yann, on va écouter évidemment un petit morceau. Je parlais de ces hippies et de tous ces gens, jeunes gens occidentaux qui sont allés en Inde. Par exemple, les Beatles, en 1968, au pied de l'Himalaya, au bord du Gange. Donc, ils reçoivent l'enseignement d'un grand maître yogi. Et on va écouter une chanson de George Harrison qui s'appelle tout simplement, devinez, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, George Harrison.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. IDFM, 98FM.
Alors, Yann, est-ce que tu savais aussi que même les Rolling Stones ont été inspirés par l'Inde ? J'ai trouvé ça en faisant des recherches pour l'émission. Leur logo, qui est cette bouche avec une langue tirée, eh bien, alors tu ne savais pas, eh bien, c'est trouve son inspiration dans la figure de la déesse hindoue Kali, à la peau bleue et à la langue rouge sang, symbole pour les hindous de la mort et de la destruction et du temps. Donc, les Rolling Stones eux-mêmes se sont mis à la page, si je puis dire.
Mais en fait, ça ne m'étonne. Enfin, là, on parle des Beatles, on parle des Rolling Stones, mais en fait, ça ne m'étonne pas du tout. L'Inde est une source d'inspiration artistique tellement incroyable. On peut le voir que ce soit dans leur nature, dans leur culture, dans leur religion, dans les paysages, dans la nourriture, partout, en fait, il y a quelque chose dans leur danse. L'Inde est un pays extrêmement inspirant et ça ne m'étonne pas que les Rolling Stones ou les Beatles se soient largement inspirés de ce qu'on peut recevoir en Inde.
Et sans compter le cinéma indien qui est souvent passionnant. Évidemment, dans tous les thèmes sociaux qu'il aborde particulier. Alors, Yann, tu as toujours écrit que ta famille te soutenait dans tous tes voyages, ta maman en particulier, Rosita, qui est là. Et tu dis dans ton livre « Le voyageur au calibre oh, » au colibri, c'est pas mal, au colibri. Tu dis que tu es en contact permanent et qu'elle transmet tes faits et gestes à tous les autres, grands-parents, frères, belles-sœurs, neveux. Pas simple quand même pour eux, et là je vais me tourner vers Rosita, de te savoir sur les routes au bout du monde.
On est en contact quasiment permanent avec Yann, donc je ne suis pas inquiète, j'ai confiance, je sais qu'il est sérieux et je sais qu'il est bien dans sa vie, donc c'est ce qui compte. Donc, je me fais pas. C'est vrai que les seules agressions qu'il a eues, c'était une fois à la gare d'Hermonbonne. En voyage, tout se passe bien. Les gens sont accueillants, ils le voient, ils l'accueillent. Et je ne me fais pas de soucis. En plus, j'ai des contacts réguliers. Donc, je le laisse vivre comme il l'entend. Mais il sait qu'ici, bon, il y a moi, il y a mon mari.
Il y a la base.
Il y a la base.
Le camp de base de l'Himalaya.
Voilà, il a le camp de base.
C'est à Montlignon.
Il sait que s'il y a le moindre souci, il a sa maison, il a son camp de base. Et ça, c'est rassurant pour quelqu'un qui part au bout du monde.
Bien sûr, oui, oui. En plus, vous le connaissez bien, vous savez de quoi il est capable.
Voilà.
Sa détermination. Et c'est un débrouillard.
C'est
aussi,
un débrouillard. Hein,
parce que, Yann, il a bien fallu que tu gagnes ta vie sur place. Parce que, comme tu disais, tu es parti avec pratiquement rien et un short des tongs. Alors, comment est-ce que tu as gagné ta vie, justement?
Sur ce voyage ici en Inde, j'ai toujours travaillé pendant que je voyageais. Que ce soit avant et maintenant. Aujourd'hui, en Inde, comme j'ai donné des cours de yoga auparavant, enfin en France, mes élèves m'ont suivi et tous les samedis, je donnais un cours de yoga à mes élèves et du coup, ça me faisait une petite rentrée d'argent et cet argent-là me permettait de payer la vie quotidienne en Inde.
Donc, tu veux dire que tu faisais en quelque sorte des visios avec eux ?
Ouais, je faisais des visios.
Ah, mais ça, c'est pas mal.
Ouais,
Avec
Google Meet, tous les samedis. Et puis, je m'enregistrais, je faisais avec ma caméra, je me filmais. Comme ça, mes élèves ont un replay. Ils ont toute leur vie, je leur laisse. Et puis, voilà. Et dans mes voyages précédents, j'ai fait plein de métiers. J'ai ramassé des framboises, j'ai posé des affiches, j'ai vendu des empanadas, j'ai fait du cirque, j'ai vendu des photos, j'ai fait de la musique. Tout ce qui était bon pour me débrouiller, pour pouvoir un petit peu de l'argent. Quoi.
Dans les hostels aussi.
Et puis je faisais du volontariat dans les auberges.
Ouais. Voilà. Donc un peu l'homme orchestre.
Voilà. Quand on voyage, je crois que c'est l'occasion de toucher à plein de choses.
Alors il y a quand même, on va écouter une autre chanson que tu pourrais chanter à tes proches qui peut-être te manquait quand même, ou tu n'avais pas le temps.
Ah, mais mes proches ? Ah, si.
Ta famille, tes amis.
Si, mes amis. Surtout sur. Quand on part un an, à la fin, quand on voit le bout arriver, j'avais hâte quand même, même si c'était incroyable ce que je vivais, j'y pensais souvent. J'avais hâte, j'étais plus fatigué. On fatigue, hein.
Oui, on se fatigue. Je ne vais pas me refuser le plaisir d'écouter une chanson que j'ai beaucoup écoutée à l'époque, une chanson de la période hippie indienne qui passait en boucle sur les radios, qui s'intitule « I'm missing you », donc « Tu me manques ». Mais c'est une chanson de Ravi Shankar, il pensait à Krishna, évidemment. « I'm missing you, Krishna ».
You.
IDFM, 98FM.
On est toujours bien sûr IDFM et dans ce rendez-vous compte, on retrouve Yann Jaouen, rentré au début juillet après un an en Inde. Tu as demandé à ce qu'on écoute aussi une autre chanson qui s'appelle Kal-O-Na-O, dont le titre veut dire, je me suis renseigné, il se peut que demain ne vienne jamais.
Voilà, j'adore cette chanson.
Bah oui.
Je la trouve très très belle.
Ouais. À chaque instant, les paroles, hein, la vie change de visage, parfois les ombres, parfois les soleils. Ici, à chaque instant, vis pleinement ce moment présent, car demain, il ne sera peut-être plus. C'est une philosophie de la vie, ça ?
Bah ouais, je crois que les Indiens, en Inde, il y a vraiment cette philosophie-là, et c'est pour ça peut-être que ça fait que ce pays soit si coloré... et avec tant de sourires, tant d'envie de partage. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup de... On m'avait dit tellement de choses sur l'Inde avant d'y aller, et l'expérience que j'en ai eue m'a tellement bouleversée, parce que je me suis senti en sécurité en Inde. Alors bien sûr, c'est bruyant, bien sûr, ça peut être sale, bien sûr. Mais à côté de ça, quand on passe ça, quand on épluche un peu les couches de cet oignon, et bah, à l'intérieur, c'est un pays tellement riche et tellement beau. Et vraiment, on m'avait dit que l'Inde, c'était le cœur du monde. Bah, moi, j'y crois.
Voilà, en tout cas, je crois que Benares, enfin Varanasi, c'est la plus ancienne cité du monde, je crois.
Ouais, alors je suis très... Bon, ce n'est que partie remise. J'ai failli y aller. Et à cause d'une aventure, je n'ai pas pu aller à Varanasi, je n'ai pas pu aller à Benares, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup y aller. Ça doit être juste extraordinaire.
C'est hallucinant, quoi.
Bah oui, bien sûr.
C'est la ville où, si on veut échapper au cycle des réincarnations, il faut se faire brûler, enfin incinérer devant le Gange et disperser ses cendres dans le fleuve sacré.
Voilà.
Bon, bah écoute, il te reste quelques années pour y retourner.
Ouais.
Mais, et puis peut-être, ce besoin de voyage, c'est peut-être la peur de ne pas voir ce que tu nommes toute la beauté du monde. Il y a une espèce de... Tout est beau, peut-être, enfin, presque tout dans le monde. C'est un peu une peur que tu as de pas...
Alors, je me dis que la peur n'évite pas le danger. Je me le dis maintenant tout le temps, dès que je suis dans des situations un peu... Mais... J'aime beaucoup cet aspect de liberté, en vérité. Je crois que, en fait, c'est plus... J'adore l'aventure. Je crois que, petit à petit, je me suis construit aussi autour de cette aventure, de quoi je suis capable. Et je suis capable... Alors, je ne suis pas le gars qui va monter des... même si je monte des montagnes et tout, mais je ne suis pas quelqu'un qui va escalader ou quelqu'un qui va faire du jump, je ne sais plus comment on appelle ça, là, du jet jump, là, où on va voler et tout. Mais par contre, ouais, j'aime beaucoup aller à la rencontre des gens, j'aime beaucoup faire du stop, j'aime beaucoup faire du vélo, j'aime beaucoup connaître les cultures du monde et j'aime beaucoup me faire des amis à l'international, parce que je crois que ça enrichit à l'intérieur, ça enrichit l'âme et avoir l'opportunité de le faire. Alors bon, moi, j'ai de la chance parce que... J'ai une petite maison, pas très loin de ma famille. Bon, je vis seul, mais j'ai cette petite maison-là avec ce jardin. C'est vrai que je pense que pour bien voler, c'est important d'avoir des bonnes racines. J'en ai.
Pas mal.
Ouais, c'est vrai. Hein. Et à côté de ça, je suis quand même assez fier, quand même, hein, en toute humilité, parce que je crois que ce que j'ai fait et ce que je suis capable de faire dans mes voyages, je suis content de pouvoir le partager, parce que c'est pas évident quand même.
Alors, il y a une chose qui est importante, hein, pour rencontrer les gens, il faut pas faire comme beaucoup de touristes, louer une voiture et puis aller d'un point à l'autre où on rencontre personne.
Non. Non, en fait, je suis content, j'ai vu le Taj Mahal, je pense que j'aurais regretté ne pas...
C'était mon rêve d'enfant,
ouais.
Je l'ai vu aussi, là c'est le choc esthétique, émotionnel,
c'était historique. Incroyable, ouais. Je suis trop heureux d'avoir vu le Taj Mahal, je suis content d'avoir fait aussi ces choses touristiques de l'Inde, en plus je l'ai vu avec Nata et Claudia qui sont deux de mes meilleurs amis pendant ce voyage... En Inde, mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, je crois que le vrai voyage, c'est pourquoi pas lever son pouce, entrer dans la voiture d'un inconnu, et cet inconnu, il va t'emmener dans sa famille, dans sa maison, et tu vas manger un tsampa porridge, qui est un plat spécial du Ladakh, par exemple, et on va rencontrer la nièce, le neveu et tout, et pour moi, ça, ça, il y a quelque chose d'assez authentique et juste de partage. Et pour moi, ça, c'est fabuleux.
Voilà, ça me rappelle une amie qui voyageait comme ça, comme toi, en stop en Colombie, et qui un jour a été pris en charge par quelqu'un qui l'emmenait dans une très belle résidence et qui a découvert après que c'était une des résidences de Pablo Escobar.
Oh, waouh, ben voilà. Ça, c'est l'aventura.
Voilà. Voilà, bah, on va quand même écouter cette chanson hein, dont je parlais, Kalo Nao. Donc, c'est un chanteur indien hein, qui s'appelle Sonu Ningam, un chanteur et acteur indien. Il pratique le yoga, évidemment. Il est engagé en Inde comme un étranger contre le cancer, la lèpre, qui existe toujours, oui, malheureusement, pour la protection des femmes contre la guerre, et qui aussi milite pour la paix entre l'Inde et le Pakistan, qui est quand même une sacrée histoire. C'est jamais assuré.
Non, non. Et d'ailleurs, il y a toujours des tensions. Les Indiens, enfin, les Indiens que j'ai rencontrés ont toujours une certaine tension avec le Pakistan. Hein. C'est vraiment pas gagné, cette histoire.
Alors, est-ce que, comme ce chanteur, il y a une forme d'engagement dans tes voyages ou pas?
Ah bah, je crois, oui. Mm. Moi, en fait... Bon, je vais en Inde, je me souviens avoir dit dans l'émission que j'y allais en ne sachant rien. Mais évidemment, je suis là pour apprendre, pour voir comment pensent les gens, qu'est-ce qui dans les métiers, comment ça se passe leur vie professionnelle, leur vie sociale, enfin pour observer un peu comment ça se passe à l'étranger. Donc forcément, il y a des choses pour moi en tout cas, de lutte des classes qui apparaissent au niveau mondial, et notamment en Inde, avec les castes, essayer de comprendre tout ça, essayer de ne pas juger, d'avoir un point de vue différent. D'ailleurs, j'avoue que je n'ai pas tout compris. Hein. C'est vraiment vaste et complexe. Donc, y aller petit à petit, mais c'est sûr. Moi, je suis quelqu'un d'engagé et mes voyages... Voyager, c'est politique. Hein. Donc, mes voyages sont engagés.
Voilà, on va enfin écouter cette chanson, donc Kalo Nao, interprétée par Sonu Ningam.
भी है धूप जिंदगी हर पल यहां जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Nous sommes toujours bien sur IDFM dans ce rendez-vous compte consacré à Yann Jaouen qui rentre d'un voyage au bout du monde, on peut dire ça. Mmh. Alors le monde, c'est quand même l'Himalaya.
Ouais.
Ça, c'est pas mal.
Ça, c'est vraiment le bout du monde aussi quand même.
Oui, oui. Alors, tu disais hein, dans ton livre qui s'appelle « Voyageurs au Colibri », pendant ton voyage en Argentine, a éclaté une grande révolte sociale au Chili, avec manifestations, répression très violente. Et tu dis dans ce livre, à page 25, « Et si je partais documenter la révolte chilienne pour apporter ma pierre à l'édification d'un pays plus juste ?» Est-ce qu'en Inde, tu as assisté à de tels mouvements sociaux ou non ?
Non, j'ai pas eu l'occasion d'assister à des grands mouvements sociaux en Inde. Peut-être parce que j'ai pas été dans les grandes villes. J'ai quand même évité. Aujourd'hui, je me sens très capable de rester quelques temps à Delhi, par exemple. C'est vrai qu'au début, j'entendais tellement de choses sur l'Inde que c'était compliqué de rester à Delhi alors que je ne Aujourd'hui, je resterai plus. Par contre, si la, au dernier, l'une des dernières choses que j'ai faites, c'était à Lé. Il y a eu des
au
Ladakh, la capitale du Ladakh, où il y a eu des, il y a eu une grève de tous les commerces et tout parce que le Ladakh a, depuis peu a obtenu une, c'est devenu une région. Avant, ça faisait partie du Jammu-Cachemire. Et depuis peu, c'est, ils ont obtenu une indépendance régionale. Et donc, ils veulent que leur culture reste vivante et tout. Et le problème, c'est que bah, le gouvernement de Narendra Modi... Bah,
il est très nationaliste et très religieux, hindouiste.
Bah, voilà. Et bah, du coup, il empiète un peu sur les... Ce qui est dommage, parce que c'est, la, c'est un peu la, la richesse de l'Inde. C'est cette, tu fais 100 km et tu as une langue différente. Mmh. Et bah, et, du coup, cette, ce nationalisme empiète sur la... sur les cultures qui font l'Inde.
Voilà, sans compter aussi la présence de la Chine, quand même, et l'influence. Quand on voit ce qu'elle fait avec le Tibet, donc, ah, petite évidemment. Menace aussi. Hein,
Ah bah, le Ladakh, ça a été l'une des régions de ma, où je suis allé, qui est le plus militarisé.
Voilà, ah bah oui, la frontière chinoise.
Ah, il y avait des militaires partout, et d'ailleurs, je devais me balader avec un permis. Mm. Et à un moment donné, je me suis retrouvé un peu dans... Enfin, j'avais tellement... Parce que j'ai pris une route en stop proche de la frontière avec la Chine. Mmh. Et tous les, je sais pas, tous les 15 km, on me demandait un permis. Mais il fallait des photocopies, j'en avais plus après. Mmh. Mais bon, après, je me suis débrouillé avec mon téléphone. Mmh. Mais voilà.
Et, ouais. Et quelquefois, bon, sur la route stratégique, justement, qui fait la frontière, on peut être bloqué une journée entière parce qu'il y a des convois militaires qui montent. Ouais. Vers le nord et qu'on essaye de redescendre vers l'Inde, vers le sud, mmh. Et qu'on est bloqué.
Ouais.
Enfin, on apprécie le paysage.
Ah bah, les paysages sont tellement beaux. Mais c'est sûr que c'est pas rare de, d'être sur le bord de la route et de voir un énorme camion avec à son arrière un énorme tank, quoi.
Ouais, c'est ça. Spécialité culinaire quand même aussi, des essais un peu, un peu
ouais, bah,
étonnants.
J'ai goûté des très très bonnes choses. Par exemple, je voulais parler du au Rajasthan pour Diwali. J'étais avec une famille gitane.
Alors Diwali, tu peux expliquer ?
Bah Diwali, c'est la, c'est, on va dire que pour faire facile, on va dire, pardon, c'est le Noël des hindouistes. C'est la plus grande fête de l'Inde et dans tout le pays, on allume des bougies pour célébrer Ram, qui est un héros d'une, d'une épopée, l'épopée la plus importante de l'Inde, le Ramayana, où avec l'histoire de Ram, son arc, c'est marrant parce qu'on dit que Homère se serait inspiré du Ramayana pour écrire l'Odyssée, et, l'Iliade et l'Odyssée. Et donc, bah, ça raconte cette... en fait, Ram, il a pu retrouver sa femme qui était emprisonnée par un roi au Sri Lanka. Et finalement, il a réussi à la libérer. Donc, c'est, il fête la libération de la femme, que j'ai oublié son nom, je suis désolé, la femme de Ram, c'est pour ça, Diwali. Et donc, ils allument des toute l'Inde allume des bougies, surtout à Ayodhya, la ville de c'est l'une des villes les plus saintes de l'hindouisme, où ils allument donc... des bougies par milliers et des pétards. Oh, des pétards. Ah oui. 5 jours, des pétards. C'est la première fois de ma vie que je me suis retrouvé fatigué à cause du bruit permanent. Je veux dire, j'ai 30 ans, j'ai 32, enfin 31, je vais avoir 32. C'est quand même incroyable de... Pa, bip, 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 ça n'arrêtait pas.
Et c'est une des
jours.
Choses, quand on revient de l'Inde, quand on y a passé plusieurs mois, et quand on revient en France, il y a peut-être deux choses qui marquent, c'est effectivement le silence. Et puis dans les rues, c'est un peu plus calme, quoi.
Ah bah, il y a moins de gens. Enfin, c'est vrai, quoi, les premiers jours, j'étais avec mon frère, je l'avais accompagné à faire des courses. Et je disais, mais là, normalement, il y a des vaches. Là,
voilà,
normalement,
des vaches, des singes, des sadous qui se promènent
ouais,
à moitié nus. Enfin, voilà. Et on est déphasé.
On est déphasé. Ouais. Ah, j'étais déphasé. J'ai eu beaucoup de chance de revenir dans mon jardin parce que j'imagine revenir dans un appartement, dans une ville ou quoi, on peut être vraiment... ça peut être une claque. Hein.
Une sorte de jet lag à l'envers.
Ouais.
Alors, tu parlais d'une famille gitane, non ? Tu avais commencé...
Alors,
oui, la nourriture.
Alors... Du coup, j'ai mangé à ce Diwali, là. Mmh. J'ai été avec une famille gitane, des Kalbelia. Mmh. Ils nous ont fait un dal bati. Le bati, c'est B-A-A-T-I. Ce sont des... j'ai adoré ça. C'est, on va dire, des petits pains avec de la pâte de blé. Hein. que l'on trempe dans un dal. Le dal, c'est
des lentilles.
Des lentilles avec des épices bon. et c'est très bon. Et il faisait ça, on l'a préparé ensemble, on a même aidé, parce que j'étais avec mes deux amies chiliennes, Nata et Claudia. Claudia, c'est une chilienne qui est amoureuse de l'Inde et qui a tout quitté au Chili pour vivre entre le Cambodge et l'Inde, parce qu'elle est prof de yoga. C'est grâce à elle que j'ai commencé ce voyage là-bas et que j'ai pu rencontrer les Kalbélias.
Alors, tu me fais une bonne transition. Les Kalbélias, donc c'est une, on va dire, une tribu, un peuple gitan.
Ouais.
Alors déjà, c'est un peu étonnant de trouver des gitans en Inde, mais effectivement, ils sont un peu partout. Et alors, tu as demandé à écouter une chanson qui s'appelle La Loussa.
La Loussa.
De Asha Sapera.
Ouais.
Alors, Asha Sapera, elle appartient justement à cette communauté Kalbélia, gitane, on va dire, dont les hommes étaient charmeurs de serpents.
C'est ça.
Hein, et qui détenait donc un savoir lié aux venins, aux plantes médicinales et aux animaux. Et puis après 1972, interdiction du métier de charmeur de serpents par la loi qui protégeait la faune. Et du coup, cette culture va se transmettre quand même par la musique et la danse.
La musique et la danse.
Et Asha Sapera, c'est justement elle qui danse, qui chante en imitant les mouvements circulaires du serpent.
Ah bah, en fait, les Kalbélias. Et c'est ça qui est super intéressant avec les Kalbélias, parce que les Kalbélias, c'est un peuple gitan, mais qui sont à l'origine du peuple gitan. On va dire que eux, depuis eux, après, ça s'est
diffusé
en Russie, en Iran, jusqu'en Europe, jusque dans les Balkans, etc. Donc, ils sont à l'origine du peuple gitan. Et ce qui est très intéressant avec les Kalbélias, c'est que donc, ils imitent, dans la danse, ils imitent les mouvements du serpent. Et pour moi, avec les voyages qu'ils ont faits à l'époque, en allant en Iran, en rencontrant le soufisme, en rencontrant aussi les derviches tourneurs, etc., et parce qu'ils ont rencontré tous ces gens-là, pour moi, ils sont aussi à une base de qu'est-ce que le yoga. Je ne dis pas qu'eux sont l'origine de tout le yoga, mais ils sont une racine. Parce que en imitant la danse, la danse est quand même à l'origine du mouvement, de la conscience du corps, etc. On a fait ça avant le yoga, toute l'humanité a toujours dansé. Et du coup, les Kalbélias, ils sont hyper importants parce qu'ils représentent un peuple libre, humble, qui vit simplement, mais qui pour moi sont à l'origine de qu'est-ce que le yoga.
Ils ne sont pas persécutés, ça va ?
Ils l'ont, si, parce qu'ils font partie des castes les plus basses.
Ouais.
Ce sont des...
Des intouchables, presque, non ?
Ils font presque partie des intouchables. Aujourd'hui, ça va mieux. Hein.
Oui.
Aujourd'hui, ils peuvent avoir des commerces. Ils vendent, par exemple, des bijoux. Ils donnent des cours de danse. Donc, ça va mieux. Ils ont des maisons en dur. Par exemple, j'ai été chez eux. Alors, ils ont toujours leur tente, mais ils ont aussi la maison en dur à côté. C'est des toutes petites maisons, pardon. Hein, mais ils ont... Voilà.
Un peu sédentarisé en partie.
Un peu sédentarisé en partie, ouais.
Et les serpents, non ? Il n'y en a plus ?
J'en ai pas vu tant que ça. J'ai vu quelques hommes avec des serpents autour du cou et tout, mais ils font ça plus pour les touristes.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est surtout ça que j'ai vu.
Tu nous rappelles le titre de la chanson qu'on va écouter ?
La Loussa.
Et l'interprète ?
Asha Sapera, que j'ai pu rencontrer à Jodhpur. Ouais, ouais.
Ah, c'est bien ça.
J'ai dansé avec elle et on a fait de la musique ensemble avec Asha Sapera.
Incroyable. On en apprend tous les jours.
Ouais.
On écoute.
IDFM, 98FM.
Rosita, donc un dernier mot peut-être.
Oui, moi j'encourage tous les jeunes à découvrir le monde, à vivre les cultures, à connaître les gens, parce que ce qui est important dans le monde, c'est quand même de savoir qu'il y a beaucoup de bonté, malgré tout, les gens. Yann, il a été aidé partout. Dès son premier jour en Inde, il a perdu sa carte bleue, j'étais complètement affolée. Dans l'aéroport, tout s'est très bien passé, il a été aidé par des gens et tout s'est très bien passé, alors qu'on est affolé quand ça arrive, ça. Et moi, je voyais en Inde, je me disais, ça va mal se passer. Et tout se passe bien grâce aux gens. Donc, je pense qu'il faut avoir confiance dans ce monde et dans ces gens. Et j'invite les jeunes à ne pas se faire de barrières, à vivre leur vie, parce que c'est important. Et c'est vrai qu'on vit qu'une fois. Et c'est important de ne pas avoir de regrets, je l'ai déjà dit.
Alors, le problème des peuples, c'est peut-être leurs dirigeants.
Oui,
qui sont pas raisonnables.
Mais les peuples ont aussi, malgré tout, une responsabilité quand ils les soutiennent.
Voilà.
Donc, il faut que les gens réfléchissent bien aux dirigeants qu'ils mettent en place et qu'ils soutiennent. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup, Didier. Et
merci à vous,
Rosita.
Je vous
quitte. Je vais garder ma petite fille.
Ah,
parce que la famille, c'est important.
Vous partez pas en Inde.
Je pars pas en Inde. Bon. Moi, je suis ici.
Merci. À bientôt.
Merci,
au revoir.
Merci, Didier.
Alors Yann, justement, après cette année passée entre l'Himalaya, alors non quand même, des événements marquants pendant ton voyage.
Eh bien, il y a d'abord mon arrivée en Inde où alors j'avais fait, oh là là, il y en a tellement, c'est tellement... Mais alors, bon, si je dois... L'un de mes premiers événements marquants, c'est que j'ai vécu à Pushkar pendant un mois. Ça, c'était mon premier moment.
Pushkar, tu peux préciser.
Pushkar, c'est la ville de Brahma. Donc, il y a trois dieux principaux dans l'hindouisme. Brahma, Vishnu et Shiva.
Alors, comme disait Pierre Dac, Brahma la guerre et Vishnu la paix.
Voilà, c'est ça. et Brahma, donc le créateur, il a... C'est toute la ville est construite autour de ce lac sacré, qui est le lac de la création. Le lac de Brahma, où tout l'univers, où toute la Terre, où toute notre civilisation serait née. Et d'ailleurs, c'est le seul endroit en Inde où il y a le temple de Brahma que l'on peut voir, c'est à Pushkar. Et du coup, Pushkar, c'est une ville où il n'y a que des temples autour du lac, et c'est très, très intéressant pour découvrir l'hindouisme et rentrer dans l'Inde. C'est la création, c'est le début. Donc, je suis très content d'avoir commencé par là-bas.
Alors, il faut dire que les temples là-bas, c'est quelque chose, quoi. Je veux dire, ce n'est pas une petite statue parmi... voilà, toute
non.
seule.
Et je trouve... Alors, bon, apprendre... Enfin, je ne juge pas les religions, absolument pas. Je veux juste dire que la manière dont ça fait tellement partie de la culture hindouiste, etc. Moi, j'ai adoré tous ces dieux, toutes ces couleurs, tout ce qui se passe dans un temps. Enfin, j'avais l'impression, en Inde, on a l'impression qu'on peut être à la fois il y a 2000 ans en Égypte ancienne, à la fois dans la modernité. Et, toutes les périodes se mélangent, et quand on va dans ces temples qui sont si vivants, voilà, moi j'ai l'impression des fois de revenir à l'Antiquité, et en même temps c'est d'une force, d'une énergie, d'une richesse qui est... Enfin, moi j'ai adoré me balader dans les temples.
Alors, autre événement marquant peut-être ?
Eh ben, j'ai participé, du coup j'ai dansé avec Nata et Claudia à Pushkar. J'ai dansé au Camel Fair, donc c'est une fête qui se passe tous les ans à Pushkar, où les agriculteurs, les éleveurs autour viennent et vont vendre des ânes, des chameaux, camel fer.
Ah oui, voilà.
Donc c'est la foire aux chameaux, en fait. Et il y a une grande scène, et avec les filles, avec ces deux copines là que je me suis faites, qui s'appellent Nata et Claudia, qui sont des Chiliennes de Concepción. Donc c'est des amies d'amis que j'avais, enfin, de mes anciens voyages, et grâce à elles que, enfin, c'est marrant. Et bah, avec elles, on est monté sur scène et on a dansé face à des milliers de personnes. On a dansé Calmélia.
Oui, on a pu voir ça sur ton site Facebook et Instagram.
Voilà.
On t'a vu. Incroyable. On pouvait te suivre au jour le jour.
Ouais, ouais, ouais. Voilà.
Et puis alors, quand même, peut-être le dernier événement marquant, c'est une rencontre incroyable.
Ah, alors en plus, je ne l'ai pas du tout cherché. C'est parce que je ne suis pas allé du côté de Dharamsala où il vit. Je suis allé de l'autre côté. Je suis allé dans une vallée qui s'appelle Spiti parce que c'était proche du Tibet et je trouvais intéressant. Bref, c'était une histoire incroyable, ça. Mais du coup, au Ladakh, pour son anniversaire, le Dalai Lama est venu aller. Et je me suis dit, bon, bah... Là, c'est mes derniers jours, je vais peut-être essayer de rencontrer le Dalai Lama, pourquoi pas. Et donc, j'ai envoyé quelques mails en expliquant qui j'étais et
Monsieur le Dalai Lama.com, un truc comme ça.
Ouais, voilà. Et finalement, la veille de mon départ, la veille de mon retour en France, je reçois un message de l'équipe du Dalai Lama qui m'ont dit « Ah bah, comme tu pars le 8, et bah, si tu veux, le 7, au matin, tu peux rencontrer le Dalai Lama. » J'ai fait « Bon bah allez, vas-y, on va rencontrer le Dalai Lama. » Et puis voilà.
Alors incroyable, alors, on mettra la photo sur la page du podcast, parce que quand même, ça c'est quelque chose d'assez unique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Français qui ont pu le voir récemment, en tout cas.
Ouais. Bah oui, surtout qu'il a 91 ans, il vient de fêter ses 91 ans, et il venait de se faire opérer du genou. Et bon, il a un peu vieilli, le Dalai Lama.
Mais il va se réincarner dans un gamin, peut-être,
bientôt. Exactement, bien sûr.
Voilà. Alors, après toutes ces réjouissances, on va dire le retour. Alors, les colibris sont les seuls oiseaux à pouvoir réellement voler en arrière. Donc, c'est un peu ce que tu as fait en revenant à Montlignon.
Ouais, et je crois que c'est très important de savoir... je crois que ce voyage qui m'a... je suis très heureux d'avoir fait ce voyage. Il m'a permis de revenir avec une nouvelle énergie chez moi. Je suis très heureux de revenir dans ma maison, de revoir mon chat, mes neveux, nièces, mes frères, ma famille, mes amis. J'ai pu revoir un peu mes amis, là.
En même temps, tu mets dans un des posts sur Facebook, tu as mis, c'est quand même drôle de sensation, mitigé, forcément.
Bah forcément, parce que au bout d'un, enfin moi en tout cas, alors bien sûr j'étais fatigué, je savais que je rentrais, mais j'aime beaucoup l'aventure. Hein. J'aime beaucoup cette vie que j'avais en Inde, de découvrir sur les routes, d'aller dans un monastère, de dormir dans un monastère par exemple, ou d'aller, enfin là quand j'étais dans l'Himalaya, c'était comme ça. Et c'était très différent de l'Inde, parce que ça fait partie de l'Inde, mais c'était très silencieux.
Dans les montagnes,
dans les montagnes, dans les plus hautes montagnes du monde. Donc c'était quelque chose de très très différent, et j'appréciais beaucoup ce voyage, et j'aurais pu continuer. Hein. J'ai pas fini de découvrir l'Himalaya et autour.
Et Bénarès.
Et Bénarès. Alors, je pense déjà à un prochain voyage. J'ai plusieurs idées, on verra. Alors là, du coup, ce que je prévois, et j'ai déjà mis en place des choses, là, j'ai plus de 15 000 vidéos sur ma GoPro. Donc, je suis en train de tout enregistrer sur un disque dur externe. Je veux tout classer. J'ai commencé je veux créer un site internet. J'ai commencé à mettre mes livres. Bon, je les ai mis sur Amazon parce que c'est peut-être plus simple et que, bon, voilà, ça passe par là maintenant aujourd'hui. Hein. Mais donc, je suis en train de mettre des choses en place. Je veux écrire un nouveau livre. J'ai commencé à parler avec des studios, notamment avec un studio à Anguin qui s'appelle Body and Mind. Et donc, je vais recommencer à donner des cours de yoga. Mais ce que je veux, moi, c'est... travailler pour avoir suffisamment d'argent pour vivre ici en France, mais avoir du temps pour travailler sur mes vidéos, mes livres, mes nouvelles chansons, parce que j'en ai créé.
Oui, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais tu as composé.
J'ai composé, des nouvelles chansons pendant mon voyage en Inde. D'ailleurs, demain, je vais aller au Musée Sauvage à Argenteuil, qui est un tiers-lieu artistique magnifique, où il y a plein d'artistes là-bas, et c'est là-bas que j'avais enregistré mes chansons, et je vais revoir mes amis là-bas pour voir avec eux qu'est-ce qui peut être fait.
Il faudra que tu nous en donnes une en exclusivité, peut-être, pour IDFM, super.
Ouais, voilà. Bien sûr.
Donc en fait, le voyage continue, mais il change simplement de forme, quoi. Et il est en attente.
Voilà, et c'est l'Aventura qui continue. Pour moi, je me donne encore l'âge pour... En fait, je voudrais du coup essayer de sortir le plus de choses possibles de ce voyage en Inde, avec des conférences, avec un nouveau livre, avec tout ce que j'ai dit, les vidéos, etc. Une fois que j'aurai sorti tout ça, je me donne 2 ans pour pourquoi pas repartir sur les routes pour un autre voyage.
Alors, tu as fait l'Amérique du Sud, tu as fait l'Inde, l'Afrique peut-être, non ? Ça te tente ou pas ?
Alors, l'Afrique me tente énormément.
C'est compliqué.
Non. Ça me fait pas plus peur que ça. Non, j'aimerais beaucoup aller en Afrique. Mais par contre, il y a... L'Amérique du Sud, j'y suis allé 3 ans et j'ai pas fait le Pérou. Donc, je suis en train de réfléchir. Alors, je reste flexible. Ça se trouve, je ferai quelque chose de complètement différent. Mais j'ai un plan. Ça serait de partir en voilier d'Europe, d'aller jusqu'au Mexique. Au Mexique, acheter une bicyclette, descendre l'Amérique centrale.
Ah non, l'Amérique centrale.
L'Amérique centrale. Passer en Colombie, redescendre jusqu'au Pérou, faire le tour du lac Titicaca, remonter, et puis ensuite peut-être vendre le vélo à Lima pour passer dans l'Amazonie brésilienne et pourquoi pas depuis la Guyane française essayer de repartir en bateau jusqu'en France.
Bon, bah, je crois qu'on te réinvitera d'ici quelques temps.
Oui, avec plaisir.
Yann, comment est-ce qu'on peut se procurer tes ouvrages, rentrer en contact avec toi? Enfin, comment on peut faire?
Eh bien, moi, je suis donc sur Instagram. C'est peut-être la manière la plus simple de se communiquer avec moi. Je suis Hummingbird Traveler. Je l'ai mis en anglais parce que j'ai plein d'amis à l'étranger qui n'arrivaient pas à écrire le voyageur au colibri, plein d'Indiens. Donc, Hummingbird Traveler. Et puis après, tout simplement en m'envoyant un message. Et puis bon, bah maintenant, je viens de mettre mes livres sur Amazon, Le Voyageur au Colibri. C'est possible de les avoir soit en passant directement par moi via Instagram, soit via Amazon, en tapant Le Voyageur au Colibri. Et vous trouvez mes deux livres en format broché et Kindle.
Voilà, Yann, notre émission se termine. Un dernier mot, un bilan.
Et bah, s'il y a une chose que l'Inde m'a apprise, je crois que, en fait, l'idée d'aller en Inde m'est venue du cœur. Et je crois que l'Inde, bah, et ça m'a ému, le dernier jour j'en parlais avec une copine que j'avais rencontrée là-bas, je crois que l'Inde apprend à être plus proche de son cœur et à parler avec le cœur. Et je suis vraiment très heureux de ce voyage, de tout ce qu'il a pu m'apporter, et notamment au cœur.
Merci Yann pour ce compte-rendu chaleureux de ton voyage en Inde qui a duré un an. Yann, nous te retrouverons à partir d'octobre pour des chroniques où tu nous raconteras plus précisément l'une de ces découvertes et de ces rencontres qui ont marqué cette longue et riche odyssée.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Ce week-end, le 1er du mois de septembre, auront lieu les traditionnelles journées des associations. Personnellement, moi, je vous retrouverai samedi à Saint-Leu-la-Forêt entre 10h et 12h au gymnase Jean Moulin. Je vous retrouverai aussi dimanche vers 15h à Soisy au stade Schweitzer, auprès de l'association pour la reconnaissance de Lucie et Raymond Aubrac à Soisy. Et puis aussi dimanche, bien sûr, je serai présent entre 10h et 12h à Anguin, puis en fin d'après-midi sur la jetée du lac. À bientôt. Voilà, ainsi se termine notre rendez-vous compte consacré aujourd'hui à Yann Jianwen, qui nous a parlé de son voyage d'un an en Inde, principalement. Alors quant à moi, Didier, je donne rendez-vous à tous les auditeurs la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de rendez-vous compte, sur IDFM évidemment, mais aussi le mardi matin vers 9h15, lors de la matinale de Christophe, pour ma nouvelle chronique Trendlish, qui passe en revue le nouveau lexique sociétal de ces tendances générationnelles qui fleurissent en particulier sur les réseaux sociaux.
IDFM Radio, nouvelle chronique pour cette rentrée 2026. Il interviendra une fois par semaine dans le cadre de la matinale avec sa chronique Trendlish, la chronique du nouveau lexique social. Bonjour Didier.
Bonjour Christophe. Oui, une chronique consacrée à quelques-uns de ces mots tendance, trend, issus de l'anglais américain, English, qui constituent en effet à eux seuls de nouvelles tendances générationnelles.
Et je crois qu'aujourd'hui, tu nous as bricolé une drôle de chronique. Hein.
Et en effet, Christophe, alors cher fidèle d'IDFM et toi Christophe, répondez-moi franchement, ne faut-il pas être totalement marteau pour se donner des coups de marteau sur le visage afin de paraître plus séduisant?
D'accord. Tu vas donc nous parler du looks maxing, cette tendance qui fleurit sur les réseaux sociaux déjà depuis quelques années.
Hein. Voilà, et qu'on pourrait traduire par améliorer son apparence.
Public visé, principalement.
principalement des ados et de jeunes hommes soucieux de masculiniser leur visage ou leur corps pour plaire davantage aux femmes.
Aujourd'hui, on parle d'un phénomène sportif qui monte très vite en France. C'est l'Aerox. Alors, c'est quoi exactement ?
L'Aerox, c'est une compétition en intérieur qui mélange course à pied et exercice de fitness.
On veut en savoir plus sur le nom Aerox,
Didier. Eh bien, tout simplement, il vient de l'anglais « hybride » et « rox », une sonorité robuste qui laisse entendre qu'on ne vient pas seulement faire du sport, on vient vivre une expérience intense, collective, chronométrée et généralement très transpirante.
Didier, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Trendlish, la chronique du nouveau lexique social dans la matinale sur IDFM Radio.
Voilà, et également à 18h le jeudi pour un nouveau numéro de Rendez-vous Compte où je recevrai une personnalité du Val-d'Oise investie dans la culture, la solidarité ou dans un parcours de vie. Là aussi, plein de mots et de merveilles.
Ah, merci Didier, il vient faire aussi sa promo pour son émission, il a bien raison, le jeudi à 18h, il y a les mêmes rediffusés le dimanche à 10h, disponible aussi en podcast sur notre site IDFM. Radio 98, je sais.
Oui, c'est ça.
IDFM98.fr.